Si pour vivre il faut s'écraser face à des bâtards dans ton genre, je préfère mourir droit dans mes sandalettes et la tête haute.
Nous y voilà. Tu vas devoir me tuer comme tu me l'as promis.
Très bien. Je vais aller chercher toutes les boules de cristal et quand je les aurai, je rendrai la vie à ton père.
Regarde bien. Voici ce qui arrive à celui qui brave l'interdit. Oh. À celui qui veut ressusciter les morts.
Mais c'est pas vrai, c'est un cauchemar, mais je croyais que t'étais mort, toi.
Tu vas voir, on ne me tue pas, moi, et je me venge toujours, tu le sais bien. À ton tour. Ah non, encore mort, ah non.
Après la légendaire émission Animanga, la culture pop du Japon ressuscite sur Radio Campus Orléans. De l'actu, des débats, des chroniques, des trucs plus ou moins mignons, le Kawaii Campus Club, c'est tous les deuxièmes vendredis du mois à 19h.
Et bonjour à toutes et à tous, bonsoir plutôt, 19h. On a l'impression qu'on est en pleine journée ici, effectivement, parce que on est au printemps et tout de suite, on est quand même dans une autre ambiance. La température commence enfin à chauffer sur le campus d'Orléans, à Radio Campus Orléans, bien évidemment. Et pour cette nouvelle émission du Kawaii Campus Club, tous les deuxièmes vendredis du mois, sur le 88.3 FM. Ravi de vous compter parmi nous, donc pour ce nouveau numéro, en petit comité, cette fois-ci. Puisque je suis avec deux de mes partenaires seulement pour ce nouveau numéro, Steven et Arthur avec moi. Bonjour les gars, comment est-ce que vous allez?
Salut, ça va très bien et toi?
Ça va bien, pas de soucis. Alors on profite un petit peu là, on a sorti un peu les manches courtes ou pas encore?
Moi je suis toujours... toujours en manche longue, moi.
Ouais, tout à fait.
Par principe.
Ouais, mais bon, enfin, quand même, tu t'aimes bien exhiber tes tatouages de temps en temps.
Ah oui, bon, ok, j'avoue. Ouais,
tes tatouages super stylés pour le coup.
Ah, je te remercie.
Ouais, quand même. Ouais, donc, et toi, Steven, toi, Arthur aussi, c'est pareil, toi, c'est un petit peu encore. Il fait aussi, un peu frisqué encore un petit peu.
Un peu frisqué, j'ai sorti le short hier quand même. Ouais. Parce qu'il faisait beau, mais aujourd'hui, bon. Un peu moins.
Ouais, tout à fait. Bah, moi, je suis en maillot de football pour le coup. J'aurais pu sortir le maillot du Japon, je le sortirai pour la prochaine émission. Maillot du Brésil cette fois-ci. Bon, il y a quelques connexions quand même entre le Japon et le Brésil en football notamment. Lisez Captain Tsubasa si vous voulez voir de quoi je veux parler. On va pas parler de sport, cela dit, ni de football aujourd'hui. On va parler d'un genre qui est hyper représenté, qui n'a de cesse de progresser en termes de visibilité sur les plateformes notamment de streaming et d'animation japonaise. Ce genre que l'on appelle Isekai et qui fait beaucoup parler. En positif, mais aussi en négatif. C'est le débat que nous allons poser pour cette nouvelle émission du Kawaii Campus Club, à savoir les isekai. On en a marre ? Point d'interrogation. Voilà, c'était, pour dire la vérité à nos auditeurs et à nos auditrices, c'est toi, Steven, qui avait posé le débat
Ah oui, oui. Non, je m'en souvenais même plus. Mais ah oui, bah, effectivement. Oui,
c'est toi, ouais. T'as posé effectivement la question comme ça, et effectivement, on va pouvoir un petit peu en parler parce que vous lisez ou vous regardez quelques isekai. Moi, je vous avoue que je suis beaucoup moins calé en la matière, mais j'ai fait quand même quelques recherches pour pouvoir un petit peu parler de ce genre qui, en tout cas, est devenu un phénomène presque de société, ou en tout cas un phénomène au sein des otaku, des fans de culture de Japanimation.
Ouais.
Alors, avant cela, effectivement, vous en avez l'habitude, on va vous faire gagner, encore une fois, deux superbe manga proposé par le Miskatonic Shop. Donc on va vous les présenter dans quelques instants. On fera aussi un petit point rapidement sur une actualité, enfin l'actualité en particulier sur ce qui attend les fans de Naruto à la fin de l'année, avec toi, Steven, notamment, et puis Arthur aussi. Tu pourras peut-être apporter ta contribution si tu en as envie. Je ne vous en dis pas plus. Et puis également toujours vos petites pauses musicales, bien évidemment, et le jeu aussi. Alors même si ça va être un petit peu difficile à seulement 3.
Ça va être un battle.
C'est pas la première fois.
Oui, non, mais ça va être un battle entre vous deux. Okay, ça va...
C'est pas la première fois que
oui,
c'est deux contre.
Ok. Eh bien, j'accepte le défi. J'espère sincèrement ne pas me ridiculiser face à Arthur. On va commencer cette émission tout de suite. Vous êtes bien sur le Kawaii Campus Club, 88.3 FM, Radio Campus Orléans. Le Kawaii Campus Club, tous les deuxièmes vendredis du mois à 19h sur Radio Campus Orléans. La chronique du Miskatonique Shop. Alors, on n'a pas pu enregistrer Gaël, le gérant de cette boutique située dans le centre-ville d'Orléans. Très occupé actuellement, hein, je vous avoue. C'est vrai que la période en ce moment pour les vendeurs de manga, elle est plutôt chargée. Et tant mieux pour eux. Hein, donc, j'espère que, en tout cas, les affaires tournent bien. Et il y a de quoi, j'ai envie de dire, avec les deux nouvelles propositions qui nous a données. L'héritière du dragon. Et The Hitman's Fave. Deux propositions très très différentes. Je commence par celle notamment que j'ai eu le temps de pas mal feuilleter. Étant un grand fan de l'Atelier des Sorciers, eh bien, on est en ce moment dans une vibe très graphique qui s'inspire très clairement de ce qui nous est proposé dans ce manga, dont vous pouvez d'ailleurs admirer l'adaptation animée depuis quelques jours, il me semble. Il y a les deux premiers épisodes qui sont sortis il y a peu. L'Héritière du Dragon, donc, c'est un titre signé Asuka Ishii. Le tome 1, de quoi est-ce qu'il parle ? Eh bien, je vous fais le synopsis, tout simplement. Il est un royaume qui n'a pas oublié la légende du dragon et du héros. En son sein se trouve Shanli, une jeune fille qui parcourt plaines et forêts, en compagnie de ses amis, les animaux, pour résoudre les différends entre humains et créatures fantastiques. Mais un jour, tout bascule à cause d'un mal ancien, le dragon qu'elle porte en elle. Pour sauver son ami d'une terrible blessure, elle entreprend un voyage vers sa rédemption, mais également son destin. Voici l'histoire de l'héritière du dragon et du héros. Et sans vous spoiler, sans vous en raconter, je trouve effectivement que graphiquement, le titre est très 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 bien fourni, vraiment. Ouais. Comme je vous disais, vraiment cette vibe Atelier des Sorciers, je pense que vraiment, clairement, il y a une... peut-être une mode entre guillemets, mais ce que je peux vous dire en revanche, c'est que ce n'est pas qu'une question de forme, ce manga. En termes de proposition, je pense que en termes de fond, ça doit être vraiment pas mal. La protagoniste, donc à savoir Shanli, je la trouve particulièrement inspirante. J'ai hâte de découvrir son histoire. Franchement. Voilà, je vais pas vous en raconter beaucoup plus, mais il est question notamment de relations entre l'humanité, la nature, les animaux, la manière dont on traite justement ces animaux. Très clairement, Shanli serait une islamo-gauchiste dans notre monde, végétarienne.
Ah oui.
Presque. Je sais pas si elle est végétarienne, mais en tout cas, elle est vraiment en défense de la nature et des animaux. Et clairement, elle va devoir jouer avec un monde qui a ses propres codes, ses propres normes. Et en même temps, son désir également de protéger ces animaux parfois fantastiques et qui sont mis en difficulté face à certains êtres humains dénués de toute considération. Donc voilà, j'en dis pas plus, mais je suis très agréablement surpris en tout cas de cette proposition, l'héritière du dragon d'Asuka Ishii. La deuxième proposition, ça n'a strictement rien à voir, ça s'appelle donc The Hitman's Fave et c'est signé Rintaro Oshima. Pour le synopsis, Owaru Endo est le tueur à gages le plus redoutable du clan Fujiyama, une organisation criminelle tentaculaire surnommée la machine à tuer. Il est craint de tous pour ses méthodes sans merci et sa force dévastatrice. Un jour, il prend une décision inattendue. Il se retire du métier. Son but, vivre fièrement sa vie de fan de Kaorin, une chanteuse du girls band Underground Rosa Sae, je sais pas comment je le prononce, entre t-shirt de concert et événements Polaroid et tirage de photocards. Un homme marqué par la pègre peut-il vraiment être un fan comme les autres ? Donc c'est une proposition à la fois mi-sérieuse, mi-déjantée, comme on a pu l'avoir avec souvent les propositions de Gaël. Le dessin est d'une toute autre constitution que celui de l'héritière du dragon, mais vraiment on a un dessin extrêmement clean, extrêmement lisse, pas mal de mouvements dans le dessin. Je trouve que c'est vraiment, les scènes d'action sont vraiment très représentées. On a vraiment cette impression de mouvement qui est très très développé. Et en même temps, on a un héros qui est présenté comme un badass, certes, mais on découvre rapidement que ce badass a lui aussi ses failles, justement, à savoir son côté justement fanboy de cette artiste, de cette jeune Kaorin, mais également vis-à-vis de la pègre, notamment. C'est-à-dire que ce n'est pas quelqu'un qui est, au-dessus de tout. C'est-à-dire que ce n'est pas Ryo Saeba dans City Hunter qui défonce absolument tout le monde. C'est quelqu'un qui a un maître notamment, qui a un mentor, et à la moindre petite bévue de sa part, il s'en prend plein la gueule aussi. Donc on voit aussi l'univers un petit peu dur de la pègre et son statut de tueur en gage notamment, qui nécessite pas seulement d'être bon dans le fait de tuer, mais également le fait d'être bon dans la discrétion. Et ça, il y a un passage notamment qui montre que il est repéré dans une petite photo où il est pris vraiment en fond de photo par un badaud, et ça suffit en fait pour qu'il se fasse défoncer la tronche par son mentor, parce qu'il lui indique que en fait le fait de tuer dans ton métier, ce n'est que la minorité de ce que tu dois faire. Ce qu'il faut que tu fasses surtout, c'est que tu sois complètement discret et complètement invisible dans ce que tu fais. Et donc il va l'apprendre à ses dépens notamment. Donc le héros que nous avons, donc Owaru Endo, certes est présenté comme un badass, comme on peut le voir notamment sur cette belle couverture jaune que l'on peut admirer, mais il a également ses failles. Donc ce n'est pas un surhomme. Voilà.
Ok.
Donc ces deux propositions, donc elles sont à gagner, et pour cela, il suffit de vous rendre sur nos réseaux sociaux. On va laisser une publication d'ici quelques jours. En général, je la mets plutôt le lundi, donc surveillez bien nos réseaux sociaux Instagram et Facebook. On mettra la publication et vous n'aurez qu'à commenter, partager, taguer, bref, faites comme vous le voulez, mais c'est comme ça que vous pourrez participer et ainsi remporter peut-être le tirage au sort se fera le mercredi. Voilà. Et ça conclut du coup notre première partie donc sur les mangas du Miskatonic Shop à gagner. Et je voulais vous interroger les garçons avant de faire notre première pause musicale sur l'actualité. On a appris récemment que Naruto allait revenir récemment en animé.
Alors, c'est pas si récent que ça, c'est de 2023.
Hein. Ah, de 2023 quand même,
ça fait un moment.
Ça fait en 2023, on a eu toute l'histoire de Naruto condensée en une vidéo qui s'appelle le Road to Naruto, si je dis pas de conneries.
Oui, je crois.
Et qui est sur YouTube. Hein. Super vidéo d'ailleurs, qui reprend les musiques de l'animé, enfin bref. Et c'était supposé annoncer 4 nouveaux épisodes, 4 épisodes spéciaux pour Naruto. Et c'était il y a 2 ans, 3 ans, 3 ans. Ans maintenant.
L'annonce c'était il y a 3 ans, ouais. Il me semble.
Donc voilà, et on a eu des news qui laissent entendre, ça a l'air de se confirmer, que finalement ça arriverait fin 2026, genre octobre, un truc comme ça.
Ouais, sachant que ça devait sortir genre septembre 2024, quelque chose comme ça. Ils avaient annoncé la date de sortie, et le jour même,
Plus rien. Magie. Silence radio. Mais il manquait peut-être de financement, je sais pas. Quoique, en même temps, c'est le studio Pierrot qui est à la manette. C'est bien ça. Hein. Donc, il doit quand même y avoir un peu d'argent là-dedans.
J'imagine. Enfin, après, c'est vrai que.
Ça sent un peu la catastrophe industrielle. Hein.
Je sais pas. Il y a dû avoir un problème de droit d'auteur, de marché. Je sais pas exactement. Parce que clairement, je crois pas que c'est un problème de finance. Pas pour ce studio en fait.
Et on avait déjà la durée des épisodes prévus, là, parce que c'est 4 épisodes, hein, c'est ça.
C'est 4 épisodes, il n'y a pas de durée.
Je ne sais pas si ce sont des épisodes de 24 minutes ou si ce sont des épisodes beaucoup plus longs.
Non, ce sera plus long, parce que c'est censé réadapter tout Naruto de base.
En fait, c'était ce qui laissait entendre les rumeurs, mais on n'est pas sûr du contenu des épisodes. Alors, il y a beaucoup de rumeurs, effectivement, qui sont confirmées que ce soit une réadaptation de tout le manga. Ça me paraît quand même beaucoup.
4 épisodes, oui, ça
ouais, 4 épisodes, même 40 minutes, ça chaque épisode.
Même une heure, je pense.
C'est ambitieux quand même.
On va en rajouter 4 en plus. Hein.
Soit ça va speedrun, soit ça va. C'est compliqué. Après, il y a d'autres théories qui laissent entendre que ce serait d'autres choses qui seraient adaptées. Enfin, parce qu'il y a plein de choses qui gravitent autour de Naruto. Donc,
ah bon, vraiment.
Oui, tu ne savais pas. Il y a des romans, des spin-offs, il y a plein de choses qui peuvent être adaptées. Après moi je pense, enfin je me dis un spin-off du retour de Naruto, enfin je trouve que c'est pas là que j'irais moi si je voulais recréer un truc de Naruto, tu vois.
Finalement tout ça pour ça quoi,
ouais. Mais alors justement monsieur l'expert de Naruto, qu'est-ce que vous feriez à la place des décideurs et décideuses?
Je ferais ce que Mr Beast il a annoncé qu'il voulait faire un remake total de Naruto.
Là tu n'as que 4 épisodes là justement.
Oui.
Donc qu'est-ce que tu aimerais adapter en 4 épisodes, alors soit de 24 minutes ou soit si tu as la chance de pouvoir faire plutôt 50 minutes. Tu disais qu'il y avait presque un univers étendu là.
Tous les romans. Moi, je pense un des romans auxquels je pense, ils ont adapté une partie, la partie de Sasuke et Sakura, qui s'appelle Naruto Retsuden, si je dis pas de bêtises. Et en fait, c'est un arc qui commence avec Kakashi, qui part avec Sasuke et Sakura, et ensuite qui finit avec Naruto Orochimaru. Et ça se passe quand Naruto il est adulte, et en fait, il tombe malade à cause des démons aqueux qui sont en lui. Et c'est une maladie que l'ermite Rikudo avait contractée, et en fait, ils partent tous trouver un moyen de le soigner. Et
donc, même voilà. Orochimaru.
Ouais, mais Orochimaru aussi se joint à.
Il a bien changé.
C'est un gars sympa, lui, non?
Ouais, c'est ça, tellement sympa que ce gars-là, il a tué je sais pas combien d'enfants pour ses expériences.
Oui, mais bon, tu sais, réhabilitation et tout. Ouais, le pardon.
Il a eu un bracelet électronique et puis voilà.
C'est ça. Bon, en plus, il y a Yamato qui le surveille tout le temps. Ouais. Mais voilà, ça pourrait valoir le coup d'adapter ça, parce que ça permettrait de revoir Kakashi en action. Bah, Sasuke Sakura, il a déjà été adapté, donc je vois pas l'intérêt de le réadapter encore une fois, mais bon, je comprends pas pourquoi déjà ils nous ont adapté que ça et pas tout, en fait. Donc voilà, ça pourrait être ça, et ça terminerait avec Naruto, enfin voilà, sur un grand combat avec Naruto.
Et explorer un peu le passé, le lore de Naruto, ça t'intéresserait pas forcément de...
Il y en a qui parlent de... Il y a quelques années, il y a eu un concours de popularité sur les personnages de Naruto, et le grand gagnant, en fait, Kishimoto, s'engageait à faire un one shot sur ce personnage. Et il se trouve que c'est Minato qui a gagné. Du coup, il y a eu la naissance du Rasengan qui a été adapté.
Et il y a plein de rumeurs d'ailleurs sur une adaptation animée qui ne viennent d'absolument rien, je n'ai vu aucune source fiable par rapport à cela, mais alors en ce moment quand on regarde sur les réseaux sociaux, mais ça pullule en fait de gens qui disent oui il va y avoir une adaptation animée de cette histoire de Minato.
C'est trop court pour faire 4 épisodes, hein. Ouais. Clairement, soit tu traînes les planches, ce qui serait chiant, sinon non.
Faire un film d'animation peut-être.
Ouais, hein, encore, ouais. Un film d'animation d'une cinquantaine de minutes. Hein, et puis...
Que tu peux élargir éventuellement, sur lequel tu peux créer d'autres choses.
Ouais. Ouais.
Après tout, regarde, l'adaptation en manga de Boruto est différente de celle en animé, par exemple.
Oui, c'est vrai. Mais finalement, les deux se rejoignent, hein, ouais. le manga et l'animé, même s'il y a des choses qui sont dans l'animé qui ne sont pas adaptées, qui ne sont pas dans le manga.
La coupe de cheveux d'Hinata.
Oui.
Elle se rejoint aussi.
Oui.
C'est vrai. Ok. Non, parce que dans le manga, il ressemble plutôt à Mireille Mathieu. Hein, en fait.
Coupe au bol, femme au foyer, cheveux courts. Enfin, c'est tout un délire.
Ouais.
Mais non, mais voilà. Donc, je sais pas. On verra bien. Fin d'année.
Et toi, Arthur, t'aurais une envie particulière
Peut-être, voilà. En fait, là, on parlait du one-shot de Minato. Peut-être, au lieu de réadapter Naruto, faire 4 one-shots. Un peu genre une série d'anthologie finalement, avec un one shot sur chaque personnage. Donc tu peux adapter Minato en 40 minutes, ça se fait, je pense.
Oui.
J'ai pas lu le,
si, ça
one shot. Et tu peux faire sur d'autres personnages, à tout hasard Gaara, peut-être le meilleur personnage de Naruto.
Comment il est devenu Kazekage? Parce que c'est vrai qu'on a jamais vu le moment où il est devenu officiellement Kazekage, je crois. Bon, en tout cas.
Non, c'était non. Pendant l'ellipse, je crois.
Ouais, c'est ça.
Tout à fait.
Et peut-être faire un épisode sur Sakura.
Y a un roman sur Sakura qui est très bien, qui se passe après l'histoire de Naruto Shippuden.
Un truc sur Tenten peut-être.
On parle de personnages qui ont une histoire.
Justement, il est temps peut-être de lui créer une histoire puisqu'elle en a pas.
Ouais, mais est-ce qu'il y a vraiment de quoi raconter une histoire?
Je suis pas sûr.
Sur Neji peut-être plutôt.
Ouais, mais bon, il est mort, donc
fin de passé.
Bon bah en tout cas voilà, place à toutes les spéculations possibles et imaginables. De toute façon, les réseaux sociaux, Reddit, tout ça, c'est fait pour donc.
C'est un peu la mode de ramener des vieux animés. Là, il n'y a pas longtemps, il y a encore eu des news sur le remake de One Piece,
oui.
The One Piece de Wit Studio.
Oui.
Enfin, des news. Non, ils ont republié un trailer en mode regardez, ça sort, pas de date, pas d'image.
Ils ont publié des planches des personnages la semaine dernière, je crois. Si
ouais,
je peux
être c'est juste ça en fait. Ouais, mais c'est des images qu'on avait déjà vues en soi.
Et après,
juste pour rappeler que coucou, on existe.
Ouais, ils ont pas l'intérêt, moi, personnellement.
Ils ont déclaré que cette adaptation sera.
Un épisode par chapitre.
Ouais, ce sera un épisode par chapitre, mais ce sera aussi mémorable que SNK.
Ouais.
C'est en termes d'animation, je pense.
C'est ambitieux, mais pourquoi pas.
Enfin bon, moi j'ai du mal à me dire que tu peux faire un remake, que tu peux commencer un remake alors que la série elle est encore en cours.
Après, ça fait 20 ans. Enfin, ça fait plus de 20 ans.
Dragon Ball Super, quoi, c'est pareil. Là, t'entends parler de Dragon Ball Super et déjà de faire un remake de ce truc-là.
Ça avait déjà été annoncé, non?
Oui.
Ouais, mais je veux dire, enfin, pourquoi vous faites pas un remake de Dragon Ball, quoi?
Ça vend pas. Non, bagarre.
Ouais, bagarre.
Non, et puis oui, c'est commercial, clairement.
Ouais. Bon, bah, les choix artistiques dont on n'est pas forcément toujours d'accord, mais bon, c'est comme ça. Voilà, c'est eux qui ont les clés en main. Bref, on attendra en tout cas d'en savoir un peu plus sur cette adaptation donc de 4 épisodes de Naruto qui est prévue normalement pour cette fin d'année 2026. À vos spéculations, chers auditrices et auditeurs, et nous pendant ce temps-là, eh bien, on va peut-être en parler en off pendant notre petite pause musicale. On vous propose un titre qui s'appelle Love Light Shining du groupe Reggae Disco Rockers en featuring Sako et Magu Roman. Alors Reggae Disco Rockers, c'est un groupe phare de reggae lovers rock au Japon et leur premier single est sorti en 1996 et à ce jour ils ont publié 6 albums. C'est une proposition de DJ Tofu de la classe internationale. C'est à écouter à l'instant sur Radio Campus Orléans 88.3 FM. le manga et la pop culture japonaise, c'est sur Radio Campus Orléans, dans le Kawaii Campus Club. Et de retour, effectivement, dans le Kawaii Campus Club, vous venez d'écouter Love Light Shining de Reggae Disco Rockers, en featuring Sako et Maguroman. On continue à présent cette émission Kawaii Campus Club avec notre thématique principale. Les isekai, est-ce qu'on en a marre ? C'est le thème. Et pour cela, il s'agit peut-être pour commencer de définir un petit peu ce que c'est que l'isekai.
Plante-nous le décor, s'il te plaît.
Alors, très rapidement, hein, pour le coup, je me suis pas trop cassé la tête. Je suis allé chercher quelques petites définitions. Alors, pas que sur Wikipédia, j'ai quand même regardé sur plusieurs sources d'informations qui se recoupent. Isekai, ça veut dire littéralement autre monde. C'est ce qu'on appelle un sous-genre de la fantasy japonaise avec pour intrigue le fait qu'un personnage ou plusieurs personnages soient transportés, piégés, réincarnés ou ressuscités dans un univers parallèle. Alors on a un univers qui peut exister en tant que monde imaginaire dans celui du protagoniste sans qu'il n'ait nécessairement connaissance sous une forme quelconque. Ça peut être une mythologie, ça peut être un univers virtuel de jeux vidéo devenu réel, ça peut être un univers provenant de livres, etc. L'isekai, en gros, on peut même considérer que les premiers exemples, on peut les trouver même dans la littérature occidentale, notamment Alice au Pays des Merveilles et Le Magicien d'Oz, notamment, qui peuvent être considérés, c'est ce que l'article Wikipédia dit, comme des proto-exemples du genre, notamment. Voilà, mais en tout cas, il a des codes qui ont été notamment définis vers la fin des années 2000, l'isekai en tout cas tel qu'on le connaît, l'isekai moderne, mais ses origines en tout cas sont beaucoup plus profondes et on va y revenir peut-être un petit peu, mais d'abord première question, Steven et Arthur, votre premier contact avec les isekai, de quoi il s'agit en fait, voilà, comment est-ce que vous avez pris connaissance un petit peu de ce genre, ou en tout cas voilà, quelles ont été vos premières expériences avec cela?
Je commence.
Oui, vas-y.
Moi, le premier du genre, je pense, ça a été Sword Art Online, très clairement, que j'ai découvert à sa sortie, c'était en 2009, c'est ça, ou un truc comme ça?
Le light novel, c'est 2009.
L'anime, ça doit être en 2012 ou un truc comme ça.
Ouais, c'est un peu plus tard.
Ouais. Donc à peu près dans cette période-là, je l'ai découvert et donc j'ai beaucoup aimé. Hein, ça fait partie des isekai que j'apprécie beaucoup. Bon, il a ses défauts, hein, mais bon, comme toute œuvre. Ça a été ça, mon premier pied dedans. Après, j'ai découvert ReZero aussi, que j'ai beaucoup aimé. Et qui est encore en cours, là il y a la saison 4 qui est en cours actuellement. ReZero, qui a vraiment un concept bien particulier que je trouvais un peu gore au début, mais que j'aime bien finalement.
C'est-à-dire en gros,
le personnage principal il apparaît comme un peu soudainement dans un monde d'heroic fantasy. Et en fait, lui, le concept dans ReZero, c'est que à chaque fois qu'il meurt, il revient à sa précédente sauvegarde.
Ah, donc c'est un jeu vidéo aussi, ouais.
Je dis sauvegarde parce qu'en gros, il réapparaît à un point précis dans son aventure. Et en fait, des fois, il avance son point de sauvegarde.
Des checkpoints ou quoi, un peu.
C'est un peu ça. Et sauf que du coup,
c'est tous les codes d'un jeu vidéo, mais alors qu'il n'est pas dans un jeu vidéo.
Et ouais, il en souffre énormément. Voilà, il y a vraiment l'aspect où il en peut plus de mourir, de voir mourir ses proches, etc. Et du coup, des fois, il se suicide pour retourner en arrière, en fait. Donc voilà, on est sur quelque chose de très violent. Et j'aime beaucoup le concept. Et après, il y en a d'autres. C'est une catastrophe.
on va y revenir justement sur cette peut-être sur cette dérive de l'isekai, la déchéance. Enfin, à la fois la déchéance et en même temps l'explosion aussi, parce que on a quelques chiffres, hein, voilà, oh là là, pour l'évoquer. Mais d'abord, voilà, Arthur, toi, tes premiers contacts aussi avec le genre isekai.
Moi aussi. Alors officiellement, c'est Sword Art Online il y a quelques années, j'ai regardé les deux premières saisons.
C'était un phénomène à l'époque, hein. C'était un truc de fou, hein. Même moi j'en avais entendu parler, même moi j'avais regardé les premiers épisodes à cette époque.
Wakanim, je crois, à l'époque.
Je sais pas, mais pendant très longtemps, j'en entendais parler. Et puis un jour, j'avais rien à regarder, je me suis dit, tiens, je vais lancer. Et finalement, j'ai enchaîné les deux saisons en peut-être deux semaines, un truc du genre, peut-être un peu plus. J'ai bien aimé, mais le genre des isekai, c'est pas non plus ma cam. Mais en préparant cette émission, j'ai eu un flashback et en fait, mon premier contact avec les isekai, c'est Digimon Fusion, que j'ai regardé vers 2015, un truc du genre, sur Netflix. C'était dispo, j'avais tout enchaîné en quelques mois. et j'avais beaucoup aimé, mais après c'est pas exactement le même genre de d'isekai.
Mais c'est très intéressant, oui.
Non, mais je suis allé voir vite fait sur Crunchyroll et j'ai tapé isekai et effectivement Digimon ressort.
Mais oui, c'est très intéressant ce que vous dites, parce qu'effectivement moi en faisant mes recherches en préparant cette émission, jamais je m'étais imaginé que Digimon était un isekai au début, jusqu'à ce que je vois plusieurs sources se recouper. Et factuellement c'est vrai. Hein,
ouais. Est-ce que Pokémon est un isekai?
Bah non, parce qu'ils sont pas enfermés dans un monde.
Il y a une théorie qui dit que Sacha est dans le coma.
D'accord, ok, ça reste une théorie. Hein, voilà. Et puis alors une théorie pour le coup fumeuse qui se base pour moi pour sur pas grand
Yu-Gi-Oh,
chose,
isekai ou pas?
Je veux dire, dans ce cas-là, Détective Conan aussi, il est dans un isekai puisqu'il grandit pas comme Sacha.
Ah oui,
c'est
effectivement.
Pareil,
hein. Non, mais lui, il reste dans son monde. Mais
Ah ouais, je veux dire, il s'est passé plus de, je sais plus, 110 tomes, 120 tomes. Il grandit toujours pas, il a toujours 8 ans.
Oui, bah c'est.
Voilà. Dans une boucle temporelle. Donc,
bon, voilà.
C'est une enfance très longue.
C'est théorie fumeuse, moi je me base sur le factuel. Effectivement, Digimon, c'est le cas. Et moi, je vais vous dire, c'est vrai, mon premier contact, je pensais que c'était aussi Sword Art Online. Mais en fin de compte, bah non, c'était Digimon quand c'était diffusé sur TF1 à l'époque.
Ouais.
Et qu'à l'époque, on le considérait de manière extrêmement, pas maladroite, mais même. Enfin, c'était complètement fallacieux de dire que. De comparer Digimon à Pokémon. Parce que ça n'avait rien à voir. Mais on a vu une adaptation très censurée, évidemment, par les Américains, avec un générique absolument horrible. Enfin, bref, je vous passe tous les détails.
Ouais. Mais c'est vrai que, avec la voix digitale.
Oui, c'est ça. Oui.
Robot.
Ah oui.
Pays spécial.
Il y a JDG qui se fout de la gueule de.
Bah oui,
mais
il y a de quoi faire.
Carte mère.
Mais bref, oui, c'est vrai. On a aussi un groupe de jeunes enfants qui se retrouvent enfermés dans ce monde virtuel et qui passent en fait plusieurs saisons sans pouvoir en sortir même de ce monde virtuel.
Oui, c'est vrai. Qu'ils sont coincés au début.
Ouais, ils sont complètement coincés sur l'île à l'époque. Je crois que c'est une île en fait. Après, ils vont explorer d'autres coins du monde et puis après, je crois qu'ils vont revenir dans le monde. Réel avant après d'y revenir de revenir dans le monde digital, enfin bref,
c'est ça Digimon Fusion, c'est ça.
Non mais c'est vrai, j'avais pas pensé à Digimon, mais après j'ai regardé très rapidement quand j'étais gamin, j'ai surtout joué au jeu moi. Mais oui effectivement.
Mais alors du coup pour en revenir à Digimon par exemple, et même ce qui se faisait dans les années 90, puisque Digimon en fait c'est toute fin des années 90 pour la première saison, les isekai effectivement ça ne date pas de Sword Art Online et ça ne date même pas des années 2000. C'est plus ancien en tout cas si on se réfère à l'histoire des animés. En fait, il y a pu déjà y avoir des isekai même dans les années 80 ou 90, même si ceux-ci étaient beaucoup moins nombreux et beaucoup moins foisonnants qu'à cette époque. Je reviendrai sur les chiffres tout à l'heure, mais tout ça pour vous dire que, pareil, dans mes recherches, j'ai appris que, par exemple, Vision d'Escaflon, c'est un isekai. Alors Vision d'Escaflon par exemple, c'est un manga et un animé ultra reconnu des années 90. Ça fait partie des piliers vraiment de ce que l'on appelle ces créations des années 90 dans le genre mecha, et dans le genre mecha très très particulier, puisqu'en fait on arrive dans un monde médiéval fantastique dans lequel vous avez des mechas, mais pas en mode science-fiction, mais plutôt en mode justement armure, grandes armures fantastiques avec plusieurs royaumes qui s'affrontent, notamment avec des luttes de pouvoir, et au milieu de tout ça, vous avez une lycéenne championne d'athlétisme et versée dans l'art de la cartomancie qui s'appelle Itomi, et qui se retrouve un jour victime de visions, qui perd conscience en plein entraînement, et au cours une de ses visions se matérialise, et elle se retrouve en fait dans ce monde justement médiéval fantastique, et coincée dans ce monde médiéval fantastique, elle va participer directement à ses intrigues, à ce qui se passe là-dedans, et puis avec évidemment un peu de romance qui va se créer au fur et à mesure, mais clairement Vision d'Escaflon, je l'avais vu comme genre mecha et mode mecha fantastique, mais clairement pas en isekai. J'ai été surpris. Dans le même genre, un petit peu ce qui peut être surprenant aussi, c'est Inuyasha par exemple, l'œuvre, le best-seller avec Ranma 1/2 de Rumiko Takahashi. Qui est considéré par certains comme un isekai, mais d'autres diraient que c'est pas forcément le cas, parce qu'en fait, l'héroïne Kagome, contrairement à de nombreux isekai, elle est capable de partir du monde du Japon féodal dans lequel se trouve Inuyasha notamment, et toutes ces entités notamment fantastiques, elle peut revenir à loisir dans le monde moderne japonais, ce qui n'est pas forcément le cas dans un isekai, parce que isekai, il y a souvent ce concept d'être piégé ou coincé en tout cas dans ce monde virtuel, dans ce monde parallèle par exemple. Mais tout ça pour vous dire que Inuyasha et Vision d'Escaflon, qui sont vraiment deux monuments des mangas et des animés des années 90, sont des isekai par exemple.
Okay,
donc fut un temps les isekai, ça pouvait être vraiment gage de très très grande qualité pour le coup.
Alors qu'aujourd'hui, c'est plus compliqué.
Ouais. Mais alors déjà, vous êtes surpris un petit peu quand je vous ai, quand je vous donne ces, ces références.
Oui et non, en fait, moi je sais que Sword Art Online a posé les bases de l'isekai moderne, très clairement. Enfin voilà, c'est encore aujourd'hui, il y a des jeux sur SAO qui sortent, c'est vraiment le maître en la matière. Mais oui, enfin, même le concept même de voyager dans un monde et d'y être bloqué, enfin, ouais, je te disais ça tout à l'heure, on retrouve ça dans Mario quoi. dans le film Mario, le vieux film, je sais pas si tu vois de quoi je parle, Arthur, mais c'est.
Ah oui, pas le film actuel.
Ah non, 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 le vieux, vieux film où t'as un plombier New Yorkais.
Ça n'a jamais existé.
Bah, dans le film moderne, il est aussi plombier new-yorkais. Hein.
C'est vrai, effectivement. Et...
Ils ont repris ce concept. Hein.
Donc voilà, donc le concept en lui-même, il existe depuis longtemps.
Et, ouais. C'est juste que c'était pas codifié, ouais, que ça avait pas de nom. Mais c'est comme les tout premiers shonen en soi. C'était, on avait une histoire, mais c'était pas dit, bah tiens, ça c'est un shonen. Quoi.
Ouais. Alors, juste avant d'évoquer les isekai modernes, un petit aparté sur une série d'animation française aussi, puisque aujourd'hui sur l'isekai moderne, on a souvent les références aux jeux vidéo. On est très très souvent dans des mondes qui sont en tout cas avec des codes du jeu vidéo ou même carrément dans le monde des jeux vidéo. Un petit aparté quand même sur une série d'animation française, Code Lyoko, créée en 2003, soit 5 ou 6 ans avant Sword Art Online, et qui met en scène plusieurs collégiens et collégiennes qui doivent affronter Xana, ce programme multi-agent qui menace de détruire le monde, enfin de conquérir le monde en tout cas. Clairement, enfin, est-ce qu'on peut le considérer comme un isekai? Moi, je pense pas, parce que justement, il n'y a pas ce concept, encore une fois, d'être piégé. Quoique, il y a Aelita, le personnage avec les cheveux roses, notamment, qui est celle qui peut arrêter les attaques de Xana en tapant le code Yoko, et qui doit être constamment protégée, parce que si jamais elle perd tous ses points de vie, elle, c'est game over définitif pour elle, elle meurt. Et elle est coincée dans la première saison, notamment dans Lyoko.
Pardon, ça va, j'ai eu un flash aussi en parlant d'isekai. Jumanji.
C'est vrai que...
Pardon,
pas le premier film. Bah, non, soit,
mais... non. Et bah, si, pas les jeunes, mais si Alan, ouais. Ouais, Alan Parrish.
Oui, pardon, excuse-moi, c'est juste que j'ai eu un flash là-dessus.
Ah, mais c'est vrai, ouais.
Mais dans les deux derniers films, c'est vrai que c'est un isekai.
C'est vrai, ouais.
C'est un isekai américain.
Mais non, vrai. Oui, non, non, voilà, c'est. Oui, mais Code Lyoko, pardon, excuse-moi.
Ouais. Non, non, mais sur le côté jeu vidéo, en tout cas, moi, j'ai. Alors, mon manque de culture peut-être va me trahir très clairement, mais j'ai pas de référence de. Comment dire, d'une œuvre. Qui fait justement ce parallèle avec les jeux vidéo avant Sword Art Online. Il y en a peut-être eu certaines qui ont peut-être pas forcément été très très connues, mais Code Lyoko clairement avait vraiment changé quand même pas mal de choses de ce point de vue là quoi. Et introduit cette thématique vraiment du jeu vidéo, des points de vie, etc.
C'est vrai, ouais. Ouais.
J'en ai pas. Mais
c'est pas le premier dessin animé, enfin. Si, en soi, moi j'en ai un autre, mais plus récent, c'est Ninjago. Voilà, je raconte ma vie, c'est mon dessin animé préféré.
Ah, vas-y, raconte les Ninjago. Ouais.
C'est mon dessin animé préféré, voilà. Il n'y a pas très longtemps, ils ont sorti une nouvelle saison, justement, où c'est le genre isekai. En fait, ils sont, comme le Code Lyoko, en fait, ils sont envoyés dans un jeu vidéo et ils doivent arrêter le méchant Unagami, je crois. Qui globalement, alors s'il l'arrête pas,
là, je pourrais pas t'aider. Hein.
Et s'il l'arrête pas, en gros, le monde est détruit parce qu'il a une influence sur le vrai monde. Voilà.
D'accord.
Et les personnages ont des points de vie justement.
Mais Ninjago, moi, je les voyais surtout sous les jeux, les publicités. Il y avait pas des jouets, ouais.
Oui, c'est des jouets.
Oui, mais il y a une série aussi. Oui,
je le voyais encore comme un espèce de simili Beyblade ou autre. Non, on aurait dû en parler lors de l'émission sur les animés commerciaux.
Un peu le même genre, mais il y a une vraie histoire Ninjago. Il y a un côté un peu shonen aussi.
Ok, d'accord, je te crois.
Juste parce que je sais pas pourquoi j'ai des flashs comme ça qui me reviennent de trucs qui pourraient être assimilés à des isekai. Tron.
Ouais, c'est vrai. Bah c'est vrai que oui, mais je parlais de Code Lyoko, mais c'est vrai que oui, Code Lyoko c'est beaucoup basé sur Tron aussi, quoi. C'est clairement la principale source d'inspiration des créateurs de Code Lyoko.
J'ai des trucs qui me reviennent là.
Ouais. Et bah justement, c'est oui.
Non, mais après je voulais repartir sur Sword Art Online qui a posé des bases.
Bah justement, on va y repartir, mais juste un petit, j'en profite pour faire un petit teasing d'une émission exceptionnelle que nous allons normalement faire le vendredi 12 juin. Notez bien, cette date, hein, auditeurs et auditrices. De toute façon, on refera des communications évidemment par rapport à cela. On va communiquer dans le monde entier par rapport à cela. On reçoit normalement Sophie De Croisette, la directrice d'écriture de Code Lyoko, qui viendra nous voir directement. Et ouais, si, effectivement. Et il y aura peut-être même Jérôme Mouscadet, le producteur et réalisateur de Code Lyoko, qui viendra peut-être. En tout cas, Sophie De Croisette nous a donné son accord, clairement. Évidemment, on est en train de préparer tout cela. Ça sera peut-être une émission aussi en déplacement, c'est-à-dire qu'on va peut-être la faire en direct. Ce sera l'occasion vraiment d'évoquer en long et en large cette œuvre française qui a vraiment marqué les esprits dans les années 2000. Voilà, mon petit aparté est terminé. Okay. Repartons peut-être sur Sword Art Online, justement, parce que c'est un petit peu un tournant, une charnière, j'ai l'impression, justement, dans les isekai. Ouais.
Bah, en fait, on parlait justement de tout cet aspect très RPG jeu vidéo. Enfin, voilà, Sword Art Online est un jeu vidéo. Donc il y a ça, mais il y a aussi une particularité et qui est à mon sens beaucoup trop reprise et qui est chiante, c'est cette tendance à avoir un harem autour du personnage principal un personnage principal qui est vraiment ce qu'on pourrait appeler une personne un peu lambda qui a très peu de caractéristiques. Voilà
je lui montre une double page du tome 1 quand je me réincarne en slime. Le dessin est magnifique, vraiment je suis subjugué par la qualité graphique de cette œuvre et je pense que même elle doit raconter des choses très intéressantes, mais à un moment donné on arrive aux trois quarts de l'histoire et soudainement on tombe sur une magnifique double page avec un harem de si je les compte bien de 8 femmes qui entourent le slime et qui lui font un câlin avec leur grosse poitrine, évidemment, parce qu'aujourd'hui dans un isekai moderne c'est pas possible d'avoir des personnages féminins qui ne soient pas sexualisés.
Et oui, et en fait c'est un peu le problème des isekai, c'est vraiment cette tendance à avoir des harems tout le temps. T'as un personnage un peu auquel n'importe qui d'entre 15 et 35 ans à peu près, je dirais, pourrait s'identifier, et après qui est entouré de deux filles et pas forcément les plus intéressantes du monde. Mais en tout cas, alors il y a une particularité, c'est que leur chara-design est beaucoup plus travaillé que celui du personnage principal.
En même temps, quand t'as un slime, j'ai envie de dire, c'est pas trop
c'est ça. Non, mais tu vois, Sword Art Online c'est pareil, Kirito, le personnage principal, en soi son chara-design est pas très travaillé que ça.
Non, c'est vrai, il est super lisse,
c'est vraiment toutes les filles qui l'entourent qui sont travaillées. Pareil, je prends un autre exemple. Alors, pour le coup, un exemple que je trouve plutôt réussi dans son genre, c'est Konosuba. Konosuba, t'as un personnage Subaru et qui, pareil, a un chara-design très lambda. Et à côté, il y a plein de filles autour de lui qui sont pour le coup plus travaillées. Mais voilà, il est entouré de filles. Alors, pour le coup, celui-là, il est très drôle. Parce qu'il y a vraiment ce côté, on se moque de toutes ces spécificités de l'isekai. On se fout de sa gueule, il est mauvais du début à la fin, il s'entoure de filles en pensant qu'il va tout tomber à ses pieds, et en fait il tombe sur une bande de bras cassés. Et donc voilà, lui il est drôle. Okay. Mais ça reste des exceptions dans tous les isekai qu'on voit, où il y a beaucoup trop de scènes de sexualisées. Des fois c'est limite très beauf en fait, et c'est pas très intéressant.
Pour défendre Sword Art Online, c'est surtout l'anime qui a fait ça en fait, parce que du base c'est un light novel, donc un roman en ligne mais illustré, et en fait c'est pas vraiment ça dedans, c'est l'anime qui en a rajouté des caisses sur les personnages féminins, avec des scènes extrêmement problématiques. Moi j'ai été
choqué, alors corrigez-moi si je me trompe, mais il me semble que c'était la fin de la saison 1 ou la fin de la saison 2, quand elle est emprisonnée l'antagoniste, et où alors il y a clairement des scènes et des attouchements dont on se serait bien passé en fait, qui n'apportent strictement rien,
sachant que de base ça a été censuré parce que de base c'était plus trash.
Oh la vache.
Et il me semble que dans les saisons suivantes il y a vraiment des scènes hard qui ont dû être supprimées dans 99% des pays, parce que sinon c'est interdit, ça passe pas.
Oui, il y a une scène je pense dans le dernier arc. Ouais. Alors pour le coup ils avaient fait un trigger warning en disant au début de l'épisode, attention, il y a une scène qui n'est pas à montrer à tout le monde. Mais parce qu'elle, là pour le coup elle racontait quelque chose et elle était en lien dans l'histoire. Je trouvais que cette scène était horrible, mais qu'elle s'inscrivait parfaitement dans l'histoire et dans ce que voulait raconter Sword Art Online à ce moment-là.
Ouais. Après, l'auteur, il est pas tout blanc parce que information que peu de gens savent, mais il y a un chapitre pornographique qui existe en ligne
sur officiel écrit par lui.
Ok, bon, voilà, je savais pas. Ils l'ont pas adopté celui-là.
Non, mais techniquement, il prend place dans la saison 1 et
après 22h30.
À un moment dans la saison 1, il y a un épisode qui se termine. Ouais. Et,
voilà. Mais alors, ouais, c'est cette histoire d'hypersexualisation aussi des personnages féminins. Moi, je vous avais envoyé aussi une petite capture d'écran de la nouvelle série d'animé The Red Ranger Becomes an Adventurer in Another World. Pardon pour l'accent absolument horrible, mais en gros un truc sur le Power Ranger rouge ou enfin le Super Sentai rouge qui arrive dans un autre monde et le personnage de la sorcière qui est un petit peu son sidekick, bah voilà, représenté encore une fois avec une poitrine absolument sur des démesurée, enfin bref, le truc. Et ça me pose question parce qu'en faisant mes recherches, c'est pareil, j'avais cru comprendre, mais peut-être que c'est une mauvaise interprétation de ma part, que l'isekai dans les années 90 pouvait plutôt être presque vu comme symbole d'un certain point de vue d'émancipation féminine, avec justement des œuvres comme Vision d'Escaflowne par exemple, avec des personnages féminins, voilà, qui vraiment qui prennent les choses en main et voilà, qui prennent toute leur place aussi dans cet univers et qui sont pas vraiment sexualisés à ce moment-là. Et puis effectivement, on a ce tournant-là clairement. C'est, enfin, j'ai l'impression en fait que là, on arrive sur des choses un petit peu rétrogrades, quoi. Alors que l'isekai pouvait avoir au départ des vertus. Alice au pays des merveilles, c'est pareil aussi. Si on sort de l'isekai, mais la base de ce qui a pu créer les origines de l'isekai. Enfin là aujourd'hui j'ai l'impression qu'on en est très très loin de l'héroïne émancipée.
Je connais pas assez ce qui se faisait dans le passé sur les isekai, mais en tout cas aujourd'hui c'est clairement pas les isekai, c'est clairement pas mon genre de manga ou d'anime. J'en lis pas en fait, je regarde généralement les premiers épisodes et je suis généralement très déçu de ce que je vois. Des fois c'est beaucoup trop perché, hein, comme la personne qui se réincarne en réfrigérateur ou en distributeur. Voilà, des trucs comme ça, et je trouve ça très 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 beau, très pauvre en termes d'histoire, en termes de lore. Je trouve qu'ils sont de plus en plus génériques au possible en fait. Ils se ressemblent tous et bon voilà. Et pour se distinguer, ils vont dans le trash, ils vont dans le dégueulasse, et puis c'est pas, voilà, je trouve que il y a plus intéressant comme œuvre qui sort en ce moment. Voilà, il y a l'atelier des sorciers, c'est ça qui est en cours. Voilà, on a la reprise de One Piece. Moi je trouve que voilà, personnellement,
la Vinland Saga,
il y a Vinland Saga, voilà, évidemment,
moi, je la défendrai toujours.
Mais aller voir des trucs comme ça, enfin ouais. Les isekai, bon ouais, moi j'avoue, j'en ai un peu marre,
hein. Et c'est pour ça que ça m'intéresse pas, moi, les isekai, hein. J'ai l'impression, vraiment, je vois ça de loin, je me dis bah c'est tout le temps la même chose et de plus en plus trash. Donc je préfère vraiment regarder autre chose que de m'infliger un isekai qui, je sais, au bout de 3 minutes 30.
Après, il y en a qui aiment, hein. Après, il y en a qui sont clients de ça.
Ah, bah, il y en a qui aiment, effectivement.
Pour tous les goûts, j'ai envie de dire.
Il y en a qui aiment, justement, ça me permet de faire la petite transition avec mes chiffres. Alors d'abord, juste une petite proposition qui m'avait été conseillée par les amis de l'Otaku Café, c'est So I'm a Spider, So What. Donc, alors je suis une araignée, et alors. Et là, pour le coup, on a une héroïne féminine qui se retrouve transformée en araignée dans un jeu vidéo.
L'anime est plutôt joli.
Et et même le manga est très joli aussi. Et là, en tout cas, de ce que je vois du premier tome, on n'a pas forcément de sexualisation de l'héroïne, puisque elle est une araignée dès le départ. Donc ça me paraît être quelque chose d'assez intéressant, même si encore une fois on reste sur la thématique du jeu vidéo et quelque chose quand même d'assez redondant, très honnêtement. D'ailleurs, on a aussi cette blague que un de mes camarades m'a dite. Aujourd'hui, on est un peu sur le isekai roll, à défaut d'être sur Crunchyroll, quoi. Quand vous allez sur Crunchyroll aujourd'hui, vous avez l'impression que c'est isekai roll, tellement ça prend en proportion.
Y en a beaucoup.
On a un internaute sur Reddit notamment qui s'est amusé à faire le décompte des isekai depuis 1983, année après année, en heure de diffusion, enfin en heure que ça représente et en nombre de séries. En 1983, on avait deux séries qui étaient considérées comme des isekai pour 30 heures au total. En 2023, on est passé à 29 séries et 148 heures. Ça a diminué pour l'instant sur 2025, je sais pas pourquoi, mais il y a eu une grosse diminution. Mais en tout cas, sur la globalité, on a vraiment eu une grosse augmentation d'isekai. Alors certes, une augmentation aussi du nombre d'animés, mais en proportion, ce qui était calculé, mais pour le coup là j'ai pas les chiffres exacts, mais ce qui était calculé par certains internautes, c'est qu'on passait de 2% de représentation des isekai dans la production d'animé à peu près 10% aujourd'hui. Certains avancent des chiffres plus importants sur les nouveautés, il y en a qui parlent même de 26-28% des nouvelles productions. Ça me semble un peu beaucoup quand même, mais déjà 10%
ça
c'est quand même pas mal
pas,
mais en même temps quand on voit les plateformes
entre les deux,
quand on voit les plateformes c'est quand même omniprésent hein.
Bah oui oui, et puis à chaque fois qu'il y a, de nouveaux animés qui débarquent dans le lot, t'as forcément un ou deux isekai. Donc
et encore ça dépend, les chiffres c'est au Japon ou c'est dans le monde, parce qu'il y en a peut-être qui sortent que au Japon.
Ouais je pense,
oui, c'est possible.
Ouais ça, là pour le coup je peux pas m'avancer parce que j'ai pas ces détails là, voilà. Donc vous avez une fourchette large, mais en tout cas ce qu'on voit c'est une vraie progression en termes de proportion en tout cas d'animés. Et justement je reviens aussi sur ce que vous disiez, c'est-à-dire que vous êtes pas fan de isekai, moi non plus, parce que justement on trouve le genre ultra formaté, on a l'impression que ça raconte pas grand chose. Qu'est-ce qui explique du coup ce tel succès quand
c'est
même
léger.
Des isekai malgré ça quoi. Ouais.
Moi je pense que c'est léger, ça fait du bien, on peut facilement s'identifier au personnage principal quand on est un homme entre 15 et 35 ans, donc je pense que voilà. Mais après
ça raconte beaucoup quand même de notre société, j'ai l'impression aussi l'ère de TikTok, je fais peut-être un focus mal placé sur TikTok et sur tous ces contenus aujourd'hui courts qui doivent être simples, qui doivent être pas prise de tête, mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui c'est vraiment ce que les gens cherchent, ne pas se prendre la tête.
Oui, c'est pertinent, mais ouais, pareil, c'est à voir. Est-ce que c'est que en France ou est-ce que c'est à l'international? Peut-être que la France, on est un pays où ça nous saoule rapidement, mais au Japon, c'est truc derrière One Piece qui cartonne, quoi.
C'est qu'il y a une demande, donc forcément, s'il y a des gens qui sont clients de tout ça, enfin, il va y avoir plus des productions et de plus en plus, tant qu'il y aura des gens qui regarderont.
Ah bah, de toute façon, semble facile à produire.
Oui. Bah, de toute façon, c'est toujours le consommateur, oui, qui a le dernier mot là-dessus. Hein. C'est, de toute façon, c'est une boucle fermée.
C'est pas grave, on restera dans les trucs niches.
Oui, nous en tout cas, ça nous fait plaisir effectivement de rester dans nos trucs niches et on continuera de vous en parler. Et notamment, on est à l'affût de cette version collector du 29e tome de Vinland Saga qui va sortir bientôt. Parce que là, très clairement, là c'est quelque chose de dingue qui s'apprête à sortir. Allez. 19h51 et 52 secondes très précisément, en tout cas mon horloge en face de moi. On va se laisser une toute petite pause, l'opening de Vision d'Escaflon justement, et on revient pour le petit jeu de fin d'émission. Radio Campus Orléans, c'est le Kawaii Campus Club sur le 88.3 FM. Magnifique opening de Vision d'Escaflon à l'instant sur Radio Campus Orléans, c'était Yakosoku wa Iranai, interprété par Maya Sakamoto. Il faut absolument que je me mette sur cet animé très rapidement parce que vraiment c'est un banger des années 90. On enchaîne tout de suite avec le jeu de fin d'émission. Le manga et la pop culture japonaise, c'est sur Radio Campus Orléans dans le Kawaii Campus Club. Allez Steven, c'est parti. Parti pour le duel entre Arthur et moi.
Alors, les règles sont simples. On va, dans l'ordre alphabétique, vous allez me donner un nom d'animé ou de manga. Le plus rapide prend le point, sachant que j'ai noté moi-même un animé ou manga par lettre. Et si vous donnez le même que moi, vous doublez vos points, ok ?
Ouais.
Donc okay. En gros, un point pour le plus rapide, deux points pour le plus rapide, si il donne le même nom que celui que j'ai noté.
Ok, d'accord.
Ok.
Je vais ouais. être très mauvais à ce jeu.
Vous êtes prêts ? C'est de la rapidité là.
Voilà. Ouais.
Donc bon bah lettre A.
Ah mince, Awashi.
Wow. Okay,
un point pour toi.
J'avais le néant dans mon cerveau.
Lettre B.
Bleach.
Oui oui.
Un point toujours.
T'aurais pu mettre Beyblade. Hein.
Non, moi j'avais Berserk.
Ah oui, ouais, j'aurais dû sortir Berserk en plus, j'adore.
Bien. Allez, lettre C.
Claymore.
Ah oui.
Il est fort.
Ah.
Lettre D.
Dragon Ball.
J'allais dire
quoi
Digimon.
Ah, Dragon Ball. Ah, j'ai pas compris ce que.
Bah, Dragon Ball, oui.
Ouais, ok, d'accord. Un point pour Thomas. J'avais mis Death Note. Allez, lettre E.
Evangelion.
Ah, punaise.
Oh,
ouais,
bien joué. Ouais. Oh, il est joli. J'avais Aishi 21. Lettre F.
Frieren.
Ok. Ouais,
t'as dit quoi?
J'allais dire Full Metal Alchemist. C'est long à dire.
Ouais, mais t'aurais eu deux points si tu l'avais dit. Bon, Thomas est en tête. Hein. Lettre G.
Gachakuta.
Oh putain, il est au taquet. Allez, on va se les faire dans le désordre là parce que ça devient trop facile. Lettre,
bah oui, oui, bah oui.
Lettre genre. N.
Naruto.
Ok, j'avais Nana moi.
Ah oui.
Lettre R.
Rezero. Oh, t'as dit quoi là?
Rave.
De ah oui, Rave. De... Bah oui, il a été plus rapide que moi.
Je donne à Arthur.
Le point.
Hein, ouais,
donne-lui le point.
Lettre V.
Violet
Evergarden.
Ouais, j'allais dire Vanguard, mais en fait c'est
quoi
Cartwright.
T'allais pas me dire Vagabond, Vagabond.
Il y avait surtout ouais. Vinland Saga aussi.
Oui, il y avait oui, Vinland Saga. Vinland.
Lettre K.
Le Kourkos Basket.
Oh, bien joué. Ouh,
non, mais je sais pas ce qu'il a mon cerveau là.
T'es pas au taquet, Thomas. Allez, lettre Z. Ouais, celui-là il est compliqué.
Zero no Tsukishima, non, quelque chose comme ça.
Oh là, je crois. Il existe ce moment-là.
Ouais, je crois, ouais.
Ok.
Mais... Attends, je vérifie quand même.
Ouais, ouais.
Zero no.
Allez, vérifie. Mais,
Ah non, je me suis trompé, c'est Tsukaima.
Bon, voilà, donc, on accorde le point ouais. à personne. J'avais Zetman.
Ah ouais.
Ouais. Lettre X.
Xenoblade, c'est un jeu vidéo.
Ils ont pas fait d'animé sur ça. Xena, la guerrière, non.
Non, je peux pas le valider celui-là.
XXX Olic.
Ah, bravo. Ouais. Deux points pour Thomas.
Ah, ouais. Oui, oui.
Ouais, c'est Clamp.
Ouais, ouais, ouais.
D'ailleurs, on avait fait gagner une vrai. Réédition de ce manga.
D'ailleurs, en manga qu'on a fait gagner, lettre S.
Salaryman X.
Ouh.
J'allais dire
on l'a fait gagner hein, le mois dernier.
Moi je pensais à Santa. D'ailleurs Santa, je sais pas si vous avez vu, il y a un animé sur Prime.
Ok, ouais. Santa, donc qui a été fait par la créatrice de Beastars.
Ouais.
Ok.
Lettre I.
Inazuma Eleven.
Oh.
Oh, joli.
Évidemment.
Évidemment.
Bah ouais, dédicace à Solena. Je crois, ouais, elle aime beaucoup Inazuma Eleven.
Ouais, moi aussi j'aime beaucoup.
Lettre M.
Il y a un animé Mario, mais.
Non.
Mashal.
Oh, bien joué. J'avais Monster, moi.
Ah oui, bah ah oui. Monster. Putain. Ah oui. Mais toutes les références, toutes mes références préférées, tu remarques quand même que je les sors pas. Hein. Vinland Saga, Vagabond, c'est quand même fou.
Je sais pas,
mais le cerveau, il est trop bizarre. Hein.
Non, mais t'es fatigué. Hein. On a encore un peu de temps. On a
ouais,
encore
ouais.
un peu de temps.
Ouais, on a encore 1 minute 30.
Allez,
ouais.
vas-y, on s'en fait 2-3 encore. Le T, lettre T. Arthur, faut que tu travailles.
Non, mais il y en a en T, mais.
Mais non, mais attends. Mais ça, qu'est-ce qui m'arrive là?
Ah non, là j'en ai pas.
Ah, c'est les chaleurs, hein, ça revient, ça fait fondre le cerveau, ça.
Bah, non, j'allais dire Totoro, mais c'est un film d'animation.
Ouais, donc, non. Moi, je suis plus animé ou manga, voire les deux. Il y en a un qui est connu quand même.
Mais oui, c'est sûr.
Vous l'avez pas là?
Non, je l'ai pas. Non.
Allez, Tokyo Ghoul.
Oh, mais il y avait Tokyo Revenger en plus.
Il y avait Tokyo Revenger aussi. Lettre P.
Pokémon. Bah, Pokémon Adventure, hein. Oui, c'est un manga, hein, je suis désolé. Hein.
J'avais Plutôt, moi.
Oui, Plutôt, ouais. Ouais. Ah, si, ouais. Une vraie œuvre aussi de Naoki Urasawa.
Ouais, lettre J.
Jujutsu Kaisen.
Oh, oui. Alors, je m'attendais pas à ce que tu me sortes là, Thomas. Arthur, tu fais quoi là?
Mais je dors, visiblement.
C'est les examens qui te mettent comme ça? C'est, ouais, c'est quoi?
Bon, ouais, allez, allez. Lettre O.
O One Piece. Voilà. Merci. Je fais si pitié.
Bon, allez, on va s'arrêter là. On va s'arrêter là. 19h59.
Peut-être, j'accepte ma défaite.
Voilà. 19h59,
victoire écrasante de Thomas.
Bon, super.
Je l'ai annoncé avant le jeu que j'allais être mauvais.
Pourtant, j'ai pas l'impression d'avoir été si génial que ça. Mais bon,
c'était un jeu pas très compliqué. Normalement, je m'attendais à ce qu'il y ait un peu plus de réactivité. Mais...
Bon, bah, merci à vous en tout cas voilà, d'être toujours fidèles parmi nous. Le Kawaii Campus Club, c'est terminé. On revient quand même sur le jour férié, le 8 mai prochain, parce que nous, on ne chôme pas. On est toujours présents sur le 88.3 FM. On vous laisse désormais avec la prochaine émission, nos amis de Blockchain à l'instant sur Radio Campus Orléans, votre émission hip-hop. Très bonne soirée à toutes et à tous.
À plus.
Bonne soirée.